Seigneur, quelle joie de pouvoir être réunis ce matin et pour cette louange, Seigneur, que nous avons pu avoir. Quelle joie de pouvoir te bénir, Seigneur. Merci pour chacun et chacune. Et maintenant, sur le sujet de l'argent que nous voulons aborder, je te prie encore de nous guider. Merci pour la parole de Dieu qui est si claire, si précise sur tellement de sujets pratiques de la vie, dont celui de l'argent. Donc voilà, guide-nous maintenant et nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Amen. Alors, peut-être que vous avez reçu cette petite invitation que nous avons faite sur l'argent, qu'en dit la Bible. Et aujourd'hui, nous commençons donc une série de 3 semaines sur l'argent, qu'en dit la Bible. Et pourquoi cette série? Parce que nous arrivons dans nos études, dans notre étude systématique de 1 Timothée au chapitre 6. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Timothée 6 et on va lire quelques versets qui sont en fait la suite. La suite, et à partir de là, nous allons partir dans le monde incroyable de l'argent dans la Bible. Alors, je vais lire 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6. Paul écrit et il dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et ensuite au verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, nous vivons actuellement une crise financière mondiale. Beaucoup de personnes se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des situations de précarité terrible, de perte d'argent sans précédent. Des entreprises ferment leurs portes tous les jours. Des personnes qui avaient des situations stables se retrouvent soudainement au chômage. Le taux de suicide est en hausse significative et en fait de manière très inquiétante. Hier ou avant-hier encore en France, ai-je entendu une femme a sauté par une fenêtre pour se suicider car elle venait d'apprendre un changement au niveau de son travail. Beaucoup de gens sont dans le désespoir. Une femme à Paris, dont j'ai aussi entendu son témoignage, avait investi toutes ses économies sur le conseil d'une banque réputée avec, aujourd'hui, le célèbre Madoff. En un jour, elle a tout perdu. Que va-t-elle devenir? Beaucoup de gens ont peur. Ils se demandent quel sera leur avenir. Pourront-ils faire face? Pourront-ils payer leur maison, leur appartement, leur voiture? Pourront-ils, pour certains, se nourrir? Et ce sentiment de peur est particulièrement accentué, étrange de le dire, peut-être dans les endroits du monde qui ont vécu pendant les années une croissance économique sans précédent. Comme ici en Europe, beaucoup de gens sont devenus très riches. Cela a renforcé ce qu'on appelle le matérialisme. Alors j'ai regardé le mot matérialisme dans le dictionnaire. Doctrine d'après laquelle il n'existe d'autre substance que la matière. Bon, c'est un petit peu la définition, je dirais, scientifique. C'est que la matière qui existe, pas le reste. Deuxième définition, état d'esprit caractérisé par la recherche des jouissances et des biens matériels. C'est la philosophie qui dit que ce qui compte, c'est ce que j'ai. La philosophie qui dit que celui qui meurt avec le plus de jouets a gagné. Alors comment faire lorsqu'on est matérialiste et qu'un jour à l'autre, tout disparaît? Un article est paru récemment dans The International Herald Tribune, le International Herald Tribune, en 2006, intitulé ceci, « Le matérialisme est mauvais pour vous, les études nous disent. » Alors c'est vrai que ça capte l'attention ça. Je lis, d'accord? Voici une scène familière. Un couple connaît des problèmes de mariage. Ils sont épuisés par la poursuite des choses, une grande maison, des écoles privées pour les enfants, des belles voitures. Ils sont affamés de temps et complètement lessivés. La vie est luxueuse, mais insatisfaisante, et tout simplement sans joie. Pourquoi ? L'article répond « Car ce couple est sur la mauvaise voie. » C'est pas la Bible qui dit ça, hein. Enfin, c'est, il cite pas la Bible ici. C'est le Herald Tribune qui dit ça. Le couple est sur la mauvaise voie. Les statistiques, les psychologues et la recherche concluent ce que les clérics et les philosophes ont prêché pendant des milliers d'années. Le matérialisme est mauvais pour l'âme. Je cite encore, récemment, les recherches ont révélé les effets négatifs de s'enrichir et dépenser. Les relations brisées, une estime de soi détériorée, la dépression et l'anxiété haussées, moins de temps pour faire ce que les chercheurs définissent comme ce qui rend les gens réellement heureux, la famille, les amitiés et un travail qui engage la personne. Et un des autres grands effets sont les maux de tête. La culture de consommation nous bombarde constamment avec le message comme quoi le matérialisme nous rendra heureux. Mais ce que la recherche nous montre, dit Timothée Kasser, que cela n'est tout simplement pas vrai. Alors certes, l'argent, surtout pour ceux qui ont peu, rend la vie plus facile et donne un meilleur bien-être. Mais ce que la recherche révèle, c'est que lorsque les gens se tournent vers le matérialisme pour se sentir mieux, ils multiplient les problèmes. Et je trouve intéressant l'analyse ici. Il dit qu'une des complications avec le matérialisme, c'est que les objectifs sont sans fin. Nous pouvons toujours vouloir matériellement ce qui n'est pas nécessairement vrai pour d'autres buts dans la vie, comme l'amitié. On peut avoir des bons amis sans pour autant toujours en vouloir plus. Mais avec le matérialisme et l'argent, on n'est jamais satisfait. Et on veut toujours un tout petit peu plus. L'argent. C'est intéressant. L'article conclut « Nous croyons que l'argent va nous apporter le bonheur pour longtemps, lorsqu'en fait l'argent nous apporte peu de bonheur pour peu de temps. » Alors là, je dis chapeau pour le Herald Tribune. Voilà le domaine que nous voulons examiner, l'argent. C'est vrai qu'il est intéressant, il en faut pour vivre. Il faut de l'argent pour vivre. Mais on a l'impression qu'on n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Mais on réalise en même temps que bien que l'argent rend la vie plus facile, c'est vrai, l'argent ne rend pas nécessairement la vie plus heureuse. Au contraire, on a l'impression que plus les gens ont de l'argent, que plus leur vie devient compliquée et si souvent éclatée. C'est un étrange paradoxe. Saint Augustin, peut-être avez-vous entendu parler de lui, était un des plus grands penseurs chrétiens de son époque. Et lui, il avait aussi réfléchi à la question de l'argent et à sa perte éventuelle dans une vie. Lui, il a vécu de 354 à 430 après Jésus-Christ, donc il y a environ 1500 ans de cela. En août 410 après Jésus-Christ, Rome fut saccagée pendant 3 jours par les barbares Alaric et ses guerriers Visigoths. Pendant les 3 jours de saccage, Rome traversa ce qu'Augustin appelait plus tard la dévastation, la boucherie et le pillage. Plusieurs sénateurs furent tués, des femmes furent violées, et d'autres hommes et femmes furent pris en tant qu'otages. Certains ont perdu tout ce qu'ils avaient et se sont échappés avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur eux. Face à l'énormité de la souffrance humaine subie, Augustin a cherché à donner une réponse réfléchie et biblique sur le problème. Ce qu'il a dit à ceux qui ont perdu leurs possessions pendant ce temps de dévastation est la chose suivante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cite notre texte d'aujourd'hui. 1 Timothée 6,6, où il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Il dit, et je le cite, « Si un chrétien peut perdre toutes ses possessions, ce qui est vrai, il ne peut jamais perdre les richesses de sa foi et de sa piété. » Ces choses-là sont logées à l'intérieur d'une personne, son être intérieur, et cela ne peut jamais lui être volé, et il ne peut jamais les perdre. Et c'est là, mes amis, que nous avons la clé du contentement personnel dans notre relation avec Dieu. Donc je crois que vous savez sur quelle voie nous avons, et nous allons maintenant sur la voie de comprendre ce que la Bible dit sur l'argent. Et pendant les 3 semaines à venir, j'aimerais aborder 4 grands sujets sur l'argent, d'accord ? Et nous allons commencer aujourd'hui. Premièrement, l'argent, comment être contenté ? Comment être contenté ? C'est très important. Et surtout, de le placer avant le 2e sujet, qui est le sujet annoncé pour aujourd'hui, l'argent, comment le gagner ? Car si vous commencez à gagner l'argent sans avoir compris le contentement, ce sera une poursuite sans fin. Donc, l'argent, comment être contenté ? 2, l'argent, comment le gagner ? 3, l'argent, comment s'en méfier ? Et 4, l'argent, comment le gérer ? D'accord ? Donc ça, c'est les grands chapitres que nous allons voir ensemble. Alors, premièrement, regardons l'argent, comment être contenté. Regardons en premier le principe du contentement financier. C'est vraiment important qu'on comprenne le contentement financier. C'est notre texte, en fait, d'accord ? C'est pour ça que je commence avec ceci. Verset 6 de Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alors le lien avec du verset 6 avec le verset 5 est clair. Si vous étiez ici la dernière fois, nous avons vu que les versets précédents parlaient des faux docteurs. Et ces faux docteurs, dans les versets 3 à 5, utilisaient une soi-disant piété comme source de gains financiers. Ils manipulaient leurs fidèles afin que ceux-ci puissent donner de l'argent de telle manière qu'ils puissent s'enrichir. Et ça, c'est un grand mal, et souvent on le voit dans les sectes, n'est-ce pas ? Il y a toujours de l'argent derrière l'erreur théologique. Enfin, toujours, presque toujours. Dans le verset 6, Paul explique que le vrai chrétien, lui, devrait trouver son gain ou son contentement, pas dans l'argent, pas dans le gain financier, mais dans la piété. Et ce gain-là est un gain que les acquisitions matérielles ne peuvent pas procurer. Regardez ce qu'il dit au verset 6. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Alors déjà, il y a un mot que vous connaissez, hein, « grand ». Une grande source de gain. « Grand », c'est le mot « méga ». D'accord ? Donc, c'est vraiment un méga gain, un méga profit, un méga bénéfice. Qu'est-ce qui est un méga bénéfice ? C'est ce qu'il dit ici, la piété avec le contentement. Et ça, on a vu le mot piété la dernière fois, c'est ce fervent attachement au service de Dieu, c'est de vouloir aimer le Seigneur, marcher avec lui, obéir Dieu, c'est ça qui nous pousse à l'aimer de tout notre cœur. Et il dit que ça, d'être pieux, de connaître le Seigneur, de marcher avec lui, de le connaître par le biais de la parole de Dieu, est un méga gain, un méga bénéfice. Et le mot contentement est aussi très intéressant, car en grec classique, ce mot décrivait ceci, une condition de vie parfaite où aucune aide ou support n'est nécessaire. Robert définit le contentement comme ceci, état de celui qui ne désire rien de plus, rien de mieux de ce qu'il a. C'est la satisfaction. Alors en fait, ce que nous apprenons est révolutionnaire. Le contentement d'une personne ne dépend pas de ses circonstances financières, ne dépend pas de ses biens. Non. Il faut avoir tous les biens du monde et ne pas être contenté. Non, parce que le contentement, nous dit ce texte, dépend de notre relation avec Dieu. C'est de là où vient le contentement. Et il est possible avec le Seigneur d'être méga content. D'accord ? J'aime bien ce mot méga, je ne sais pas si vous avez noté. Parce qu'il décrit tout, quoi. Vraiment bien, hein ? Oui, avec le Seigneur, avec une relation avec le Seigneur, il est possible d'être réellement contenté, d'avoir, là je mesure mes mots, mais c'est vraiment tiré du verset 6, c'est possible d'avoir presque une condition de vie quasi parfaite, que nous soyons riches ou pauvres, c'est ça la clé. On peut être riche et contenté dans le Seigneur, ou on peut être riche et misérable. Comme on peut être pauvre et contenté dans le Seigneur, ou pauvre et misérable. Car le contentement ne dépend pas de nos richesses. C'est pas ce que le monde nous dit. Mais on peut être satisfait dans le Seigneur. Alors j'essaie de trouver une illustration. Et là, vous la connaissez très bien. Imaginez que vous avez vraiment faim. Il y a un gros creux, vous avez vraiment, vraiment faim. Et là, vous allez à un super bon restaurant. Et là, vous regardez la carte et vous voulez tout commander. Tellement vous avez faim, tellement ça a l'air bon. Alors, vous commencez à commander et on commence à vous servir les plats et vous les mangez avec grand appétit. Et au fur et à mesure que le repas avance, tout d'un coup, vous devenez de plus en plus contenté. Finalement, le dessert arrive, profiterole, c'est mon dessert préféré, d'accord ? Avec beaucoup de chocolat suisse, d'accord ? Et vous mangez, vous profiterolles, et là vous êtes tellement satisfait que vous ne pouvez plus, quoi. Vous ne pouvez plus. Vous êtes totalement contenté. Et ça peut être tellement tel que si on vous amenait un autre dessert qui est vos desserts préférés, qui pourrait presque vous dégoûter. Donc, physiquement, on comprend tout à fait le concept du contentement. Il y a un moment donné où on est bien, on ne veut plus rien. Eh bien, ce que le texte nous dit, c'est qu'il est possible dans le Seigneur d'avoir cette attitude vis-à-vis de la vie. On est contenté pleinement avec le Seigneur. Je n'ai rien besoin d'autre pour ajouter à mon contentement. Parce que mon contentement vient du Seigneur. Alors, par exemple, dans Philippiens 4, 10 à 12... J'ai éprouvé, c'est Paul qui écrit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, car vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc Paul, il les remercie parce qu'il leur avait donné à lui un don financier. Et il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je décide là, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, il dit qu'il a appris le contentement. C'est quelque chose qui s'apprend. Et il y a plein de versets dans la Bible qui nous disent la même chose, mais dans des paroles différentes, que le gain en lui-même ne contente pas un homme. Par exemple, Proverbe 3, à partir du verset 13, nous dit ceci, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, c'est l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » C'est intéressant, le contexte, bien sûr, c'est la sagesse avec le Seigneur. Et il dit, voilà, une relation avec le Seigneur vaut mieux que toutes les richesses du monde. La Bible parle de cela souvent. Dans Proverbe 15, 16, nous lisons, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et c'est vrai qu'en lisant les journaux, on a l'impression que ceux qui ont les plus grands trésors sont ceux qui sont le plus troublés. Vous n'avez pas remarqué, c'est incroyable. C'est vraiment intéressant. Alors, on peut se poser la question, mais alors, d'où vient vraiment la joie? Ben, écoutez, alors, Jésus, il répond texto, vraiment clair. D'accord? Est-ce que vous voulez la joie? Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. D'où vient la joie? Du Seigneur. Vous dites, ouais, mais John, moi, il me faut de la paix. Ah, ben alors, d'où vient la paix? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jean 14, 27. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous savez d'où vient la paix? Du Seigneur. Tu veux la joie? Tu veux la paix? Tu veux le bonheur? Les choses deviennent très très claires. Viens au Seigneur. Maintenant, dans 1 Timothée 7, car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors, écoutez, là, je me suis arrêté encore sur ça cette semaine. C'est tellement simple, mais tellement profond comme pensée. La pensée du verset 6 est renforcée ici par le verset 7. La raison que nous devrions être contentés est parce que nous n'avons rien apporté dans le monde et que nous ne pouvons rien en emporter. Alors, pensez-y. D'accord? C'est vraiment compliqué. Quand vous êtes né, vous êtes venu avec quoi? Zéro. Aucune possession matérielle. Zéro. Niet. Nothing en anglais. D'accord? Alors, deuxième question. Lorsque vous mourrez, vous prenez quoi avec vous? Zéro. Niet. Nothing. D'accord? De ce fait, la logique, elle est toute simple. Le profit, le gain matériel que nous pouvons acquérir dans ce monde de toute manière, nous le perdrons à la fin. Il n'y a aucune exception. Tous. Qui veut dire que la portée de nos gains financiers ne sont que temporaires. Alors faites vite le calcul de combien d'années vous pensez que vous avez encore. Ça met tout en perspective. Alors, voilà pourquoi nous ne devrions pas donner une importance démesurée aux gains financiers du fait que, de toute façon, à la fin, on perd tout. J'ai un ami missionnaire dont le père est paysan aux États-Unis et il était connu pour être un homme de très peu de paroles. Il disait presque rien, mais il travaillait. Un jour, un des citoyens les plus riches de la ville est mort. C'est une vraie histoire, hein. Donc, une grande foule s'est réunie, puisqu'il était bien connu. C'était tous au cimetière pour voir le cercueil être baissé dans la tombe. Et juste à ce moment-là, un autre paysan de la ville, qui était à côté du papa de mon ami, a demandé à cet homme, a demandé au père de mon ami, « Tu crois qu'il a laissé combien ?»« Tout », fut sa réponse. Un mot, j'ai trouvé vraiment intéressant. Job le savait aussi, lui. Job était très riche. Et pourtant, dans Job 1, 21, Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Très bonne perspective à voir sur la vie. Et le verset 8 continue, 1 Timothée 6, 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alors c'est intéressant, le mot nourriture, c'est le mot nourriture. Le mot vêtement ici, en fait, il est plus exact, ce serait d'utiliser le mot couvrir. C'est vraiment du mot couvrir. Et donc cela est une référence générale à ce qui couvre l'homme, que ce soit son vêtement ou son logement. D'accord? Mais il doit être couvert. De ce fait, c'est intéressant qu'il y a quand même des nécessités de base. Il y a des nécessités de vie. Il faut manger, il faut des habits, il faut être couvert, il faut un toit. Donc, la Bible reconnaît qu'il y a vraiment des choses de base qu'un homme doit avoir pour pouvoir vivre dans la dignité. Ça, on est d'accord. Ce n'est pas par rapport à cela qu'on est en train de discuter, on est en train de par rapport au superflu. Dieu ne condamne pas les nécessités de la vie. Le problème avec l'argent vient lorsque l'homme devient obsédé par son enrichissement, comme si son argent est ce qui allait lui procurer satisfaction de son âme. Voilà où est le mal. Et voilà où il est important de comprendre le contentement financier, et surtout lorsque nous vivons dans une société d'abondance et très, très riche. Alors ça, c'est le principe du contentement financier. Maintenant, on passe à la méthode du contentement financier. La méthode, d'accord ? Donc ici, le verset nous a montré qu'il faut être contenté financièrement. Il faut que toute notre confiance soit dans le Seigneur. Mais comment faire pratiquement ? Allez avec moi à Philippiens. Et j'aimerais vous donner une série de points très pratiques pour devenir des chrétiens contentés financièrement. D'accord ? Alors, on va déjà commencer à Philippiens 4. Je l'ai lu tout à l'heure. Alors, Paul vient de recevoir un don financier de l'église de Philippe. Et il leur écrit pour les remercier. Il dit ceci au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Alors voici comment devenir un chrétien contenté. Premièrement, le contentement financier s'apprend. S'apprend, c'est ce qu'il vient de dire, d'accord ? Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dirais cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Même l'apôtre Paul, qui était un géant de la foi, dit qu'il a dû apprendre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ? Parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est de ne jamais être satisfait. Il veut toujours plus. Et vous savez, une des meilleures manières d'être contenté financièrement ? D'avoir moins. Si vous vous retrouvez dans une situation dans la vie où vous avez moins que vous êtes habitué à avoir, vous êtes obligé d'apprendre le contentement financier. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Deux. Le contentement financier est possible pour tout le monde. Tout le monde. C'est ce qu'il dit au verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Là, c'est intéressant. Il prend les deux extrêmes. Il dit, l'abondance, j'ai connu, la disette, j'ai connu. J'ai connu beaucoup, j'ai connu très peu. Et donc, quelque part, tout le monde est dans cette parenthèse. Tout le monde se retrouve quelque part. Certains ont beaucoup, certains ont très peu. Mais le principe s'applique à tout le monde. Tout le monde doit devenir contenté financièrement ou il va être obsédé et il va vraiment avoir des gros problèmes dans la vie. Donc le contentement financier est possible pour tout le monde. C'est intéressant, le petit proverbe 27-20 décrit le cœur de l'homme si bien et par rapport à son désir de toujours avoir plus. Proverbe 27-20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Qui veut dire que l'enfer n'est jamais satisfait des gens qui y vont. L'enfer en veut toujours plus. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. L'homme n'est jamais satisfait par ce qu'il voit et ce qu'il veut. Il veut toujours plus. Et ça, c'est le problème du cœur humain. Donc, le contentement financier, deuxièmement, est possible pour tout le monde. Trois. Le contentement financier a comme source le Seigneur. Alors, j'aime beaucoup le verset 13 parce qu'on l'utilise toujours hors contexte. Mais on est dans Philippiens 4, 13 et il dit, « J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, certains utilisent ce verset pour dire, « Tu sais, moi, je peux tout. » Par Christ qui me fortifie, je peux même aimer ma belle-mère. Ok, c'est très bien, et gloire à Dieu, et peut-être que le Seigneur t'aide à aimer ta belle-mère. Mais le vrai contexte de ce verset, c'est quoi ? C'est pas ta belle-mère, c'est quoi ? C'est l'argent. c'est le contentement financier. Et là, on comprend beaucoup mieux. Je puis tout, qui veut dire je peux être contenté que j'ai beaucoup ou peu. Et d'où vient ce contentement? Il vient de celui qui me fortifie, celui qui m'apprend dans le Seigneur à être rassasié, à être contenté, à le remercier pour mon état et ma situation, et ne pas être toujours dans cette course au plus. 4. Le contentement financier reconnaît Dieu comme étant l'auteur et le propriétaire de toute vraie richesse. Alors là, il y a des versets vraiment intéressants. Nous devons, en tant que chrétiens, comprendre d'où vient notre richesse, et ça, ça va nous aider dans notre perception de la richesse, d'accord? Dans 1 Chronique 29, et le verset 11, je lis, d'accord? Il y aura beaucoup de versets, c'est très thématique aujourd'hui, d'accord? 1 Chronique, verset 29, 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre appartient à qui? À Dieu. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Voyez-vous, le chrétien, celui qui connaît le Seigneur, reconnaît Dieu comme étant l'auteur et le propriétaire de toute richesse. Et c'est pour ça qu'il le loue et l'adore et le remercie pour tout ce qu'il a, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu. Acte G 2.8, l'argent est à moi et l'or aussi. Intéressant, 1 Corinthiens 4.7, petit verset aussi très intéressant par rapport à l'argent. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pourquoi on ne devrait pas se glorifier de notre richesse? Parce que Dieu nous a donné la capacité de l'acquérir. Si on a quelque chose, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Moi, je l'ai souvent dit, hein, je le répète encore, je ne mérite qu'une chose de Dieu. Vous savez ce que je mérite? L'enfer éternel. Parce que je suis né dans l'iniquité, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu aurait dû me juger au moment de ma conception, à l'éternité, séparé de lui, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé vivre pendant 19 ans dans une rébellion totale jusqu'à qu'il me trouve un jour sa grâce? Et je dis aux gens, tout ce que tu as qui est mieux que l'enfer éternel est une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu. Et voilà pourquoi nous ne devrions pas être un peuple qui nous plaignons, parce que nous avons déjà reçu au-delà de ce que nous méritions, bien au-delà de ce que nous méritions. 5. Le contentement financier reconnaît que c'est Dieu qui distribue les richesses et qui rend l'homme capable de les acquérir. Donc, d'un côté, tout appartient à Dieu, et maintenant, Dieu nous donne la capacité d'apprendre de les acquérir. D'accord? Il y a encore un verset très intéressant dans Deutéronome 8, verset 17, qui dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous devons faire attention de dire, regarde ce que j'ai fait. Moi, j'ai réussi à m'enrichir. Fais attention, souviens-toi, verset 18. De l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ça, c'est l'approche humble. L'approche humble. 1 Timothée 6:17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. D'où est-ce que j'ai reçu ce que j'ai? Oui, vous pouvez dire par votre travail, ça on y reviendra tout à l'heure. Oui, d'accord, vous avez travaillé, mais qui t'a donné la capacité de travailler? Dieu. D'où vient ce que tu as reçu? La main de Dieu. Ça, c'est la perspective chrétienne, la perspective juste. 6, le contentement financier reconnaît que les richesses sont passagères. Je pense que la crise actuelle que nous vivons est un rappel puissant que l'argent est passager. Proverbe 23:5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. La richesse, tu peux l'avoir un jour, mais le lendemain, tu peux la perdre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Job, vous vous rappelez ? Job 1:1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit, craignait Dieu et détournait du mal. Si quelqu'un devait être béni, c'est bien Job. Tout allait bien. Il était un homme droit, intègre. En plus, il avait 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. S'il y avait un homme qui était célèbre, riche, connu, c'est Job. Tout le monde parlait de lui. Grande famille, tout allait bien. Tout ce qui touchait devenait de l'or. Mais un jour, Dieu a permis que Satan l'attaque. Vous pouvez lire le reste du chapitre. En un jour, il perd tout. Il perd ses enfants. Il perd son argent. Il perd ses biens. Il perd sa santé. Tout. Tout. Comme ça. Si quelqu'un savait que les richesses sont passagères, c'est bien Job. Quelle fut sa réaction ? Il a tout perdu. Santé, biens, argent, famille. Verset 20, alors Job se leva, déchirait son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Bien sûr, humainement, il est triste. Bien sûr, il est dévasté. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Voilà le contexte. C'est intéressant, non ? L'Éternel a donné. Donc, il reconnaissait que tout ce qu'il avait venu de la main de qui ? De l'Éternel. Et l'Éternel a ôté. Dieu l'a permis. Il est souverain sur tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez ce qu'il fait ? Il adore le Seigneur. Il bénit l'Éternel. Pour sa perte. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wow. Voilà un homme qui connaissait le Seigneur. Voilà un homme dont le contentement était rattaché à sa relation avec Dieu. Que j'ai beaucoup ou que j'ai peu, j'ai appris à être content, dit Paul. Job l'a vécu et il ne pécha pas. Seigneur, je te loue et je te remercie parce que tu es souverain. Tu donnes, tu reprends. Oui, les richesses sont passagères. 7. Le contentement financier reconnaît le danger de l'amour d'argent. Alors, on ne va pas regarder ça parce qu'on le regardera dans les semaines à venir. Mais vous connaissez bien ce verset dans 1 Timothée 6:10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 8. Le contentement financier met Dieu avant toute autre chose dans sa vie. C'est la seule solution, mes amis. Moi, je connais un homme plutôt âgé aux États-Unis aujourd'hui, qui a passé toute sa vie à travailler très honorablement, à gagner, je dirais, une certaine fortune. Pour X raisons, il termine sa fin de sa vie et il a quasiment tout perdu, en fait. Ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques années en arrière, il a rencontré Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. La grande différence aujourd'hui, et je l'entends, c'est qu'il bénit le Seigneur. Il dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais qui peut remercier Dieu pour des pertes ? Le monde ne connaît pas ça. Le monde se suicide face à des pertes. Le chrétien, il bénit le Seigneur. Alors, il ne bénit pas le Seigneur pour son épreuve, mais il bénit le Seigneur dans son épreuve. Parce qu'il reconnaît que ce qu'il a vient de Dieu. Comme Job, il prend, il enlève. Jésus en a parlé dans Matthieu 6. Vous connaissez ces versets, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la reine et la rouille détruisent et où les voleurs percent les robes. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la reine et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, le chrétien, il met sa confiance dans le Seigneur qui donne et qui reprend. Donc plus il est proche du Seigneur, qui lui ne bouge pas, il est solide, c'est un rocher, eh bien ses émotions seront liées au Seigneur et pas à ses circonstances. Donc le contentement financier met Dieu avant toute autre chose dans sa vie est neuf. Le contentement financier est généreux. Et ça aussi, on le regardera plus tard. Il parle aux hommes riches. Recommande aux riches au présent siècle, 1 Timothée 6, 17, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Et ensuite, il y a au verset 18, recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Je pense que l'ultime preuve, je mesure bien mes mots là, l'ultime preuve peut-être comme quoi nous sommes contentés financièrement se voit dans notre générosité. Parce que celui qui met sa confiance dans son argent, ben la dernière chose qu'il veut faire, c'est de le donner. Il veut le garder, il veut l'amasser. Mais celui qui peut le donner généreusement, c'est peut-être quelqu'un qui a appris le contentement financier. Mais ça, on verra ça aussi plus tard. Alors vous dites, ok John, merci, super, contentement financier. J'espère que maintenant, vous avez tous le truc pour être contenté financièrement. Et je pense que c'est vraiment vrai ce qu'on vient de voir. Nous pouvons, en tant que chrétiens, être contentés financièrement. C'est une attitude. Mais vous dites, John, je dois quand même gagner ma vie. Je dois quand même travailler, payer mes factures. Je dois prévoir un avenir. Est-ce que j'ai le droit d'avancer professionnellement, par exemple? Et comment réconcilier le contentement financier avec mon travail et mon avancement professionnel éventuel? Est-ce que ceci veut dire que c'est un mal de bien gagner sa vie? Devons-nous promouvoir la pauvreté et ne jamais aspirer à plus que le minimum nécessaire? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, je dois répondre, puisque je l'ai posée. Alors ça mène à notre deuxième grand chapitre. L'argent, comment le gagner? Alors, je commence, mais je ne vais pas pouvoir finir, d'accord? Je commence, la suite sera dimanche prochain. Ça, c'est l'avantage de ce style de prédication. Alors, comment le gagner? Comment le gagner? Alors, voyons en première les mauvaises manières de gagner l'argent, d'accord? Comment ne pas gagner l'argent. Alors, un, nous ne devons pas voler l'argent. Au cas où vous ne le saviez pas, d'accord? Mais je préfère quand même être clair sur ce point. Il n'est pas bien de voler l'argent. Alors, je vous donne quelques versets plutôt connus, je pense. Par exemple, le 8e commandement, Exode 25, tu ne déroberas point. Et au cas où tu ne savais pas, ça veut dire ne vole pas l'argent des autres. Alors, c'est quand même hyper intéressant. Parce que dans l'Ancien Testament, le vol, c'était pas n'importe quoi. Écoutez, Exode 22, 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau. D'accord? Donc là, tu vois ton voisin, tu vois un bœuf, tu le piques. Tu piques son bœuf, tu piques son agneau. D'accord? Ça arrivait dans le temps. D'accord? Peut-être nous, on piquerait autre chose. D'accord? Et qu'il égorge ou le vende. Donc, tu piques l'agneau, tu l'égorges, tu fais vite des biftecs, ou des côtes d'agneau, d'accord? Et tu vends. Tu t'es fait un joli bénéfice sur ce que tu as volé. On te chope. Voici la peine. Il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Peut-être qu'on devrait hausser un tout petit peu les conséquences du vol aujourd'hui. 4 fois, 5 fois. C'est pour ça que Zachée, quand il s'est converti, qui avait collecté les impôts de manière injuste pendant toute sa vie, a spontanément dit « Si j'ai volé à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois ce que je lui ai pris. » Parce qu'il comprenait qu'il devait restituer et beaucoup plus qu'il avait volé. Jérémie 7 parle de ceux qui volent régulièrement puis ensuite viennent au culte adorer le Seigneur. Pas bien. Psaume 37:21, le méchant emprunte et ne rend pas, le juste et compatissant il donne. D'emprunter et de ne pas rendre, c'est voler. Pas bien. Amos 8:5 condamne les plans malhonnêtes dans le commerce pour s'enrichir sur le dos des autres. C'est intéressant, Matthieu 15:19, Jésus dit que le vol vient d'un cœur déchu. Un cœur déchu, un cœur éloigné de Dieu, un cœur non régénéré par Christ, a une tendance pécheresse à vouloir voler, à prendre ce qui n'est pas lui. Un chrétien dont le cœur est régénéré ne devrait pas vouloir voler. Automatisme. Et au cas où ce n'est pas clair, alors ça je trouve vraiment génial, Éphésiens 4:28 dit ceci, « Que celui qui dérobait, passé, ne dérobe plus, présent, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Si le vol faisait partie de ta vie, eh bien, en tant que chrétien, c'est fini. Maintenant, tu travailles pour pouvoir donner aux autres. Ça, c'est plutôt radical, non? Ça, c'est un changement radical. Tu piquais aux autres, maintenant tu donnes aux autres. Oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour voler d'une manière sophistiquée? Parce que nous, on est sophistiqués, vous savez, à Genève. Peut-être pas aller piquer un bœuf ou un agneau à quelqu'un. Non, mais on pourrait facilement peut-être exagérer les déductions sur nos impôts. Et ainsi voler quelque chose au gouvernement qu'il aurait dû. Peut-être on pourrait voler en étant paresseux au travail. On s'attend à une rémunération constante, mais finalement on travaille à 80 ou à 70%. C'est pas du vol. Ou peut-être d'utiliser les choses au travail pour usage personnel. Peut-être des exagérations sur les frais de déplacement. Vous savez, il y a beaucoup de façons de voler de manière sophistiquée. Alors, il y a un autre point que j'aimerais souligner ici par rapport à ça. C'est que le fait qu'on ne doit pas voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre, justement, montre le droit à la propriété personnelle. Très intéressant comme concept. C'est un droit d'avoir des possessions qui t'appartiennent. Tu ne dois pas voler parce que de voler prend quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Certains disent, oui, mais le christianisme prône le communisme. Absolument faux. Le christianisme ne prône pas du tout le communisme. Parce que le communisme dit que tout appartient à tout le monde. Non. Non. Même le 10e commandement nous assure que nous avons le droit à la propriété. Car le 10e commandement dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parce que si tu ne dois pas le convoiter, et c'est une chose qui appartient à ton voisin, ça veut dire qu'il a le droit de l'avoir. La propriété n'est pas un mal. Alors certains utilisent acte 2, où tout le monde, il est dit, vendait des propriétés, et mettait dans un pot commun, et distribuait à ceux qui avaient besoin. Vrai? Ça, c'était un élan de générosité spontanée. Lisez bien le texte. Il est dit que certains vendaient des propriétés, pas toutes leurs propriétés, des propriétés, et ça n'a jamais été répété dans le Nouveau Testament, jamais décrété comme loi. C'était très exceptionnel. Nous avons le droit à la propriété, ce n'est pas du tout un mal. Et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comment ne pas gagner l'argent? Premièrement, nous ne devons pas voler l'argent. La semaine prochaine, Ce que je propose de faire, c'est de revenir sur ce point, d'expliquer d'autres manières comment il ne faut pas gagner l'argent, et ensuite vous montrer bibliquement les bonnes manières de gagner l'argent. D'accord ? Ça, c'est très important de savoir comment, de manière juste et droite, il faut gagner l'argent. Et de là, nous passerons aux prochains sujets qui ont été évoqués ce matin sur comment se méfier de l'argent et ensuite comment gérer l'argent. Je pense que si on devait vraiment conclure par une phrase aujourd'hui, je pense que c'est Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc là, on voit que le travail, c'est la norme. Et dans Philippiens 4, 13, je peux tout en celui qui me fortifie. Mes amis, avant qu'on commence à travailler, avant qu'on commence à se faire de l'argent, gagner notre salaire, s'enrichir, la vraie question c'est, est-ce que notre cœur est en règle avec le Seigneur ? Est-ce que nous avons ce que la Bible enseigne et appelle le contentement financier ? C'est la clé. Inclinons-nous. Inclinons-nous, je vais inviter le groupe de louanges de venir. Prenez quelques instants pendant qu'ils viennent et faites le point dans votre vie maintenant par rapport à votre argent, par rapport au contentement financier. Est-ce que tu peux vraiment dire devant Dieu maintenant et aujourd'hui, Seigneur, je suis contenté. Je veux avoir un cœur contenté. Je ne veux pas être dans cette course vers le matérialisme. Seigneur, je veux travailler honnêtement, être généreux et toujours puiser toute ma force, toutes mes ressources, tout mon bien-être, toute ma joie, toute ma paix de Jésus-Christ. Et si tu es ici ce matin, tu ne connais pas Christ personnellement, ça va vraiment être dur pour toi. Je te supplie, ouvre ton cœur, dis « Christ, je veux que toi tu sois ma paix, je veux que toi tu sois ma joie. » Je veux que ma vie soit contentée en Christ avant tout et que tout le reste soit secondaire. Seigneur, bénis-nous et merci encore pour ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.